Enfin, de libertaire. Enfin, un tout petit problème technique, j'arrange ça tout de suite, voilà, c'est bon. Alors, Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. Et aujourd'hui, un horaire où habituellement vous n'avez pas d'émission, une émission spéciale Solidarité Internationale avec des compagnes et compagnons italiens qui vont nous raconter un petit peu ce qui se passe à Rome. Et je suis très très heureuse d'accueillir Norma et une autre compagne dont je suis absolument désolée, je lui demande de m'excuser, j'ai perdu le prénom. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toi, et je m'appelle Nuccia, et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis là comme, je dirais entre guillemets, affectueuse traductrice d'Esprit Libertaire. Et donc... je vais essayer de rendre, avec mon français assez faible, les concepts et les idées que Norma aimerait donc reporter aux camarades français. Donc, bonsoir à tous les camarades et les copines, les copains et les copines à l'écoute. Merci de nous avoir donné la possibilité d'utiliser cet espace à la radio. Merci en particulier de toute la solidarité qui a été exprimée par la Fédération Anarchiste. Oui, et voilà, donc si tu veux, nous pouvons commencer.
Oui, bien sûr. Alors d'abord, je te rassure, ton français est excellent, donc ça ira très très bien pour les auditeurs.
J'espère.
Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu pourquoi on a monté cette émission spéciale là aujourd'hui, en solidarité avec vous?
Oui, alors je vais commencer, si tu me permets, je vais commencer par essayer d'expliquer un peu l'historique du quartier où le groupe Carlo Caffiero est situé à Rome, et en même temps aussi l'histoire du groupe anarchiste.
Avant une toute petite précision pour les auditeurs, le groupe Carlo Caffiero à Rome est un groupe de la Fédération anarchiste italienne.
Absolument, absolument. C'est un groupe fédéré donc à la Fédération anarchiste italienne et est un groupe vraiment historique, et je souligne la parole, le mot historique, parce qu'il existe depuis 1945. Bien sûr, comme les copains à l'écoute le savent bien, 1945, c'est la date de fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en ce qui concerne l'Italie, c'est la date de la fin du fascisme et de l'occupation allemande nazie.
Oui.
Donc, les anarchistes s'organisent et ouvrent un local dans ce quartier, le quartier de Garbatella. Une triste parenthèse qui concerne l'actualité de ce quartier, c'est le quartier où est née Giorgia Meloni. Donc, ça malheureusement, c'est pas une chance.
Non.
Mais à part la naissance de Giorgia Meloni, c'est un quartier qui s'est toujours distingué par son esprit populaire, antifasciste, sa présence très importante dans la résistance antifasciste italienne. Et il faut savoir, par exemple, 25 avril, pour nous, c'est une date toujours très, très importante, parce que c'est la date, c'est la fête, ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de la libération. Oui. Et il y a toujours des cortèges, des manifestations. Et comme par hasard, ils sont toujours dans ce quartier, proche de ce quartier. Donc, vraiment, c'est un lieu qui marque l'histoire antifasciste italienne. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important pour comprendre aussi la relation qu'il y a entre les anarchistes et le quartier et le territoire et les gens du quartier. Vous voyez, c'est... Donc, 1945, il y a la fondation de ce groupe nommé groupe anarchiste Carlo Caffiero, et par la suite, il y a eu une continuité totale jusqu'à nos jours, parce que tout au cours des années 60, 70, 80, 90, etc., il y a toujours eu dans les mêmes locaux une présence des différents groupes anarchistes qui se sont alternés dans l'histoire de ces dernières décennies.
Oui, c'est important, une telle continuité.
très important ce contexte. C'est très important pour comprendre un petit peu le développement de toute la question. En ce qui concerne, pour la précision, les locaux où se situe l'association L'Espace Libertaire, 19 juillet, bien sûr, la date fait référence à la Révolution espagnole, la Révolution de Barcelone. C'est donc des locaux qui ont été occupés en 2011 par des camarades du circolo du groupe anarchiste Carlo Caffiero. C'était des locaux qui sont de propriété de la Terre. C'est quoi la Terre ? La Terre, c'est un acronyme qui est là indiqué, donc l'association, l'institut, je ne sais pas comment dire en français, donc une institution publique qui gère le patrimoine immobilier des HLM à Rome.
Oui, voilà, c'est à peu près l'équivalent, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est à peu près l'équivalent de nos HLM.
Exactement. Ça s'appelait avant Istituto Case Popolari. Istituto Case Popolari, c'est Institut des logements populaires. Voilà. Ça a changé de nom, mais la substance est toujours la même. Il faut aussi savoir que ATER, c'est une institution publique qui est plus ou moins dirigée au niveau de l'administration locale par la région, la région Lazio. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la dirigeance de la région, actuellement, il y a des fascistes du parti de Giorgia Meloni.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Donc la direction générale fait référence à Fratelli d'Italia, donc le parti de Giorgia Meloni. Et en même temps, allô, est-ce que vous m'écoutez?
Oui, tout à fait. Oui.
En même temps, donc non seulement la région est politiquement dans les mains de la droite, mais il y a eu aussi un changement au niveau de la terre, c'est-à-dire l'institution qui gère
les logements,
les logements. Populaire.
Les logements sociaux.
Et donc, à partir du mois de juillet, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne se trompe pas, à partir du mois de juillet, il y a eu donc un directeur général qui est fasciste, lui aussi. Ça, c'est très important pour comprendre les événements et le déroulement de tout le processus d'expulsion qui s'est développé après.
Ah bah oui.
Donc, les camarades arrivent en 2011 et ils se trouvent devant un local qui est encombré de débris, d'ordures, de saloperies. Oui. Donc, ils travaillent beaucoup pour le remettre en état. Et ils investissent aussi du travail et un peu d'argent pour ce qu'ils pouvaient, bien sûr.
Bien sûr.
Les moyens des anarchistes ne sont jamais trop.
Ah non, on connaît bien.
Oui, j'imagine. Donc, ils essaient de remettre en état ce local et ils y installent donc une bibliothèque, ils y font des projections de films, des activités de différents types. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans ces locaux, surtout avec l'engagement personnel particulier du camarade Thomas Averta, qui malheureusement est décédé il y a 2 mois d'une maladie. Bon, il était malade depuis très longtemps. Thomas Averta, qui est un ancien camarade de la Fédération anarchiste italienne, lui bien sûr, lui aussi, et un camarade du groupe Carlo Caffiero, qui était un peu, en italien on dirait memoria storica, mémoire historique du mouvement anarchiste, en particulier du quartier. Oui. Donc il y a un archive important dans ces locaux.
Bah oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps? Alors, il y a eu une bonne tentative, je dirais, de négociation. Donc, il y avait eu des menaces d'expulsion qui n'avaient jamais été réellement concrétisées. Jusqu'à ce que l'année dernière, donc vers la fin de l'année dernière, il y a eu cette possibilité de négociation avec la terre, parce que bien sûr, il y avait des dettes accumulées à payer, etc. Et il y avait eu un accord parce que il y a un autre fait qui est très important, c'est que la terre, depuis beaucoup de temps, ne paye pas les impôts locaux à la mairie de Rome.
Oh là.
Voilà. Et ils ont accumulé des dettes épouvantables, vraiment des chiffres énormes. Donc, ils avaient intérêt à récupérer de l'argent dans les situations d'irrégularité qui pouvaient être régularisées avec des négociations, des accords particuliers. Il faut dire aussi que pour une mauvaise gestion et quelque chose qui est très fréquent en Italie, des problèmes de corruption, l'institution avait été mise sous contrôle administratif, commissariat, on dit en italien, je ne sais pas très bien comment traduire ça en français, mais ça veut dire que il y a un dirigeant technique qui va substituer le dirigeant politique.
D'accord. Oui, je vois.
Pour voir si la gestion est limpide, si la gestion est transparente. Et
oui,
tout ça.
S'il n'y a pas de détournement.
Pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'il est évident qu'à un moment donné, depuis récemment, je dirais, Ater a abandonné le processus de négociation qui avait été commencée et avec aussi l'assistance d'un avocat qui s'occupe depuis longtemps de réalité de mouvement, etc. Une avocate qui est très connue à Rome pour sa position de défense partout et toujours des droits humains, etc., etc. Simonetta Crisci, elle s'appelle, vraiment, elle est connue même au niveau international. Donc, avec l'assistance d'un avocat, cette négociation avait eu lieu. Mais à un moment donné, et sans aucune explication, sans aucune motivation, Ater a interrompu ce processus.
Et est-ce que vous avez su pour... Oui, j'allais demander, est-ce que vous avez su pourquoi?
Voilà, c'est ça, non. On ne sait pas pourquoi, mais on l'imagine très bien pourquoi.
Oui.
Bien sûr, si Ater n'est pas intéressé à récupérer de l'argent que les camarades anarchistes du groupe Cachiero voulaient donner, avaient concordé avec... Ça veut dire que, par conséquent, la motivation de cette expulsion est absolument politique. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet-là.
Mais ça semble assez évident,
Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, comme vous le savez, il y avait eu un appel des camarades à un rassemblement de solidarité devant les locaux, ce qui s'était fait aujourd'hui. Mais ce qu'on s'attendait, c'était l'intervention de la police.
Bien sûr.
Il n'y a pas eu. Donc, la question qui se posait, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on pense à ce sujet-là? On pense que ça a été à cause de la mobilisation, à cause du fait que il y a eu des articles qui ont paru dans La Repubblica, et donc qui ont souligné l'importance de cette présence historique dans le quartier, et l'importance de cette archive, et que ça serait une perte, évidemment, non seulement pour les anarchistes, mais pour la collectivité entière.
Oui, bien sûr, l'histoire sociale.
Exactement. Et je dirais aussi le fait que le président de la circonscription, c'est-à-dire le maire de l'arrondissement, a pris position. Lui fait partie d'un organisme politique, disons, entre guillemets, démocratique.
Oui.
Donc, c'est pas un camarade anarchiste, bien sûr, non plus un révolutionnaire, mais c'est quelqu'un qui a un esprit démocratique, donc il a pris une position très claire et nette en solidarité du groupe Carlo Caffiero. Et je pense que tous ces éléments-là, dans l'ensemble, ont pu peut-être déterminer le fait que la police ne soit pas intervenue, qu'il n'y ait pas eu une expulsion musclée.
Oui, oui, oui. Et alors, dans ce cas-là, bon, ce serait plutôt positif. Est-ce qu'il ne demeure pas un risque quand même qu'il fasse une expulsion non annoncée, de nuit, par exemple, quelque chose comme ça ?
Je ne pense pas ça, on ne pense pas ça, mais l'histoire n'est pas finie parce que, en effet, aujourd'hui, il y a eu un renvoi administratif.
Oui.
Donc, la prochaine date, c'est le 20 juin.
D'accord.
Et aujourd'hui, ils étaient présents, à part quelques journalistes, les camarades, bien sûr, mais il y avait un huissier de justice qui était donc chargé de gérer cette situation,
oui.
Disons, d'expulsion. Mais oui. N'étant pas là, la force publique, il n'a pas pu faire.
Oui. Donc, il a juste
En plus, il y avait deux représentants de la terre, c'est-à-dire de la contrepartie.
Oui.
Et l'avocat. L'avocat Simonetta Crisci, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un avocat vraiment très proche, très proche des camarades. Et donc, la situation maintenant est un tout petit peu compliquée parce que justement l'avocate disait que si l'institut, donc la terre, ne donne pas des motivations cet ordre d'expulsion,
oui.
Et de pourquoi ils ont interrompu une négociation qui avait été faite, il n'y a pas possibilité d'opposer, une action légale et de demander au magistrat que l'ordre d'expulsion soit bloqué.
Oui. Oui.
Et donc, c'est une situation un peu... qu'est-ce qu'il reste à faire ? Bien sûr, organiser politiquement la présence pour la date du 20 juin.
Oui.
Les camarades vont appeler à une assemblée, disons, plus ouverte, générale, et pour voir comment organiser cette mobilisation du 20 juin. J'espère que le cadre a été suffisamment clair, je ne sais pas.
Ah oui, moi, il me semble que c'est très très clair et que nos auditeurs ont très bien compris quelle était la situation du lieu en question.
Oui, et ce qu'il faut souligner, c'est que évidemment, nous sommes maintenant en Italie dans une situation assez spéciale. Nous avons des fascistes au pouvoir.
Oui,
donc,
oui.
Nous sommes obligés de nous attendre le pire.
Bien sûr.
Dans tous les domaines. Et donc, il faut vraiment vigiler, il faut être présent et il faut organiser des réponses adéquates à ces attaques fascistes, parce que de ça il s'agit. Et il est important aussi pour nous et pour les camarades du groupe anarchiste, pour nous, tous les camarades à Rome, d'exprimer notre solidarité aux camarades parisiens pour les attaques fascistes que vous avez subies à la librairie Publico.
Oui, merci.
On est au courant de ça aussi.
Oui. Bah, y en a aussi beaucoup par chez nous et ils espèrent bien arriver au pouvoir.
Bien sûr.
Mais le gouvernement actuel là, que vous avez, dont on connaît les positions, est-ce qu'il reste tout de même dans une certaine légalité ou est-ce qu'ils essayent de passer outre ou ça se passe comment de ce point de vue-là ?
Je dirais qu'ils essaient bien sûr de rester dans une légalité, surtout de se reconstituer une espèce de vêtements démocratiques, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais l'âme, l'esprit profondément fasciste, il revient.
Il ressort en
surface. Il est pas possible à maîtriser, tu vois.
Oui, oui. Et puis, ce qui est totalement effrayant, c'est qu'on a vraiment l'impression que dans les peuples européens en particulier, puis pas que, parce qu'on voit ça aux États-Unis aussi, et puis en Amérique latine aussi, donc voilà, un peu partout dans le monde, où ces idées-là sont en train de revenir vraiment en force. Que...
Ils prennent beaucoup de place. Ouais. Ils prennent beaucoup de place. Bien sûr, je pense que vous connaissez un peu le cas de Ilaria Salis, cette copine libertaire qui a été arrêtée en Hongrie, accusée d'avoir agressé des nazis qui manifestaient en Hongrie. Eh bien, nous avons assisté à des images à la télé italienne, nous avons vu cette femme qui était enchaînée, comme vraiment les déportés à la Cayenne, mais ouais. Je n'exagère pas.
Ouais, oui.
Enchaînée, conduite dans le tribunal, dans ces conditions, avec les chaînes aux pieds et tirées par un maton ou des matons, des policiers, des flics, je ne sais pas, vraiment des images terrifiantes et qu'on n'imaginait pas. Pouvoir voir comme ça à la télé d'un État soi-disant démocratique et issu de la résistance antifasciste. Donc, nous sommes dans une...
Allô ?
Kafkien, tu vois, c'est... Et en plus, l'histoire de la position des gouvernements, de notre gouvernement et des gouvernements européens, notamment le gouvernement français, allemand, etc., sur la situation en Palestine, je dirais que c'est dans le même esprit.
Les temps sont... le mauvais temps arrive, revient très 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 fort.
Exactement.
Et alors dans le quotidien, les anarchistes en Italie, est-ce qu'ils sont très très embêtés ou est-ce que pour le moment on leur fiche un peu la paix
Non, je dirais pas qu'ils sont très embêtés. Il n'y a pas une répression particulière vis-à-vis des anarchistes. Mais bien sûr, en Italie, depuis Piazza Fontana en 69, nous savons très bien quand il y a une répression qui veut être un peu musclée, les premiers à être touchés sont les anarchistes.
Bah oui.
Depuis le cas de Valpreda, Pinelli et tout ça, les attentats de Piazza Fontana, ça a toujours été comme ça. Le premier cri, c'est « Ah, les anarchistes terroristes !»
Oui, oui. Ah, oui.
Ça reste un petit peu dans le... Non. Et je pense que ils ont été un peu surpris parce qu'ils pensaient peut-être toucher un point faible dans la mouvance comme ça. Et ils ont été surpris de voir toute cette solidarité et aussi les prises de position de la presse, de certains journalistes, bien sûr, assez sensibles. Hein,
oui, oui.
Pas dire toute la presse.
Non, bah, bien sûr. Oui.
Mais je crois que les camarades à l'écoute ont compris très bien.
Oui.
On sait très bien comment ça se passe.
Mais c'est important que la solidarité ait largement dépassé le simple milieu des anarchistes.
Absolument. Mm-hmm. Et je dirais qu'elle a même touché des figures institutionnelles, entre guillemets, bon, bien sûr de gauche, évidemment.
Ouais.
Mais ça a été très important. Et surtout qu'ils ont reconnu l'importance de ce témoignage historique de la présence des anarchistes dans un quartier aussi marqué politiquement comme le quartier de Garbatella à Rome.
Ce que tu m'as raconté là me donne beaucoup, beaucoup d'espoir tout de même, parce que là, on a l'impression que ça va être beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait pour expulser le lieu.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on souhaite. Hein,
oui, ça évidemment, nous aussi.
Il faut bien sûr s'organiser. Mais donc, on vous tiendra au courant. On va toujours activer, les camarades vont activer tous les canaux d'information.
Oui, Bah oui,
la contre-information est possible, voilà.
D'accord. Mmh. Et okay. Puis et puis on
et
est...
s'il n'y a pas autre chose, ben je
allô.
Ah, oui, allô. Oui, Norma, justement, elle m'a demandé comment ça s'est passé votre rassemblement à Paris.
Le rassemblement n'a pas encore eu lieu, c'est à
19h. Ah, 19h, d'accord.
Donc, voilà, donc je n'ai aucune information sur comment il s'est passé parce qu'il n'a pas encore eu lieu. Voilà.
On va se contacter par la suite.
Hein. D'accord.
Donc, très important notre solidarité aux camarades français aussi et aux camarades, je dirais, du monde entier.
Ah, oui.
Et au peuple opprimé surtout, hein,
oui, oui.
Par les guerres et par l'injustice.
Absolument. Donc, absolument. Nous aussi, on vous renvoie très très fort notre solidarité. S'il y a lieu, on se refera un petit rendez-vous peut-être fin juin.
D'accord. Mm-hmm. Bon. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Merci à vous d'avoir supporter mon mauvais français.
Ah non, c'était très bon. C'était très très bien. Vraiment aucun problème de compréhension.
D'accord.
Non, c'était très très bien.
Allez. Et puis des fois on se comprend même sans la médiation linguistique. Hein.
Oui.
Il y a une base commune d'idéaux et de pratiques, je crois qu'on peut se comprendre.
Absolument. Okay. Mais là, de toute façon, il n'y avait aucun problème de français.
Parfait.
Eh bien.
Alors, bonne chance et puis bonne continuation de votre travail avec la radio.
Merci.
Et salut libertaire, salutations libertaires à tous les camarades et à l'écoute. Mm. Et peut-être que Norma, même en italien, voudra vous dire au revoir.
Salut, l'anarchie, la solidarité.
Vive l'anarchie, allez. Ouais,
vive l'anarchie. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, merci
au revoir.
À vous. Ciao.
Salut.
Et on va se quitter pour cette émission un petit peu plus courte que le créneau d'une heure trente, bien sûr, mais ça c'est tout à fait prévu, puisque nos camarades italiennes téléphonaient depuis l'Italie. C'est jamais très facile de faire une émission par téléphone, et puis en plus, c'est pas forcément complètement gratuit de téléphoner d'Italie. Donc on va se quitter avec les anarchistes. Au revoir. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, nous avons fait une grosse demi-heure d'émission de solidarité avec nos compagnons italiens du groupe Carlo Caffiero à Rome, en Italie, groupe fédéré à la Fédération anarchiste italienne. Et je vais maintenant vous laisser avec la bande sans fin, donc de la musique, en attendant l'heure de Femmes libres, sauf erreur de ma part, c'est à 18h30. Donc revenez à l'antenne. Au revoir.